de deux.
Bord de la rive à Yards and Charles, boisé sur le slide, la musique est zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Alors, oui, bonjour. Salut Antoine, ça va?
Ça va toujours bien, toi?
Ouais, oui, ça va très bien. Moi, c'est Félix Bouffard, en passant. Toi, c'est Antoine. C'est
Antoine Pellant-Raté, ouais, comme d'habitude. Ouais. Je sais que t'es déçu. Là.
Ah, c'est ça. On est rien que deux, là, c'est aujourd'hui.
Mais c'est comme romantique.
Ouais, c'est comme. on va commencer un petit comme radio classique. Là. On va parler des thèmes musicaux qui s'en viennent.
On va faire de l'ASMR aussi. Là.
Ouais, non, on va parler de choses un petit peu plus sérieuses aujourd'hui, je pense. Hein, des choses un peu plus. Un peu plus par rapport aux valeurs, tout le temps. On est vraiment dans nos semaines de valeurs. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est l'agenda parlementaire qui nous amène vers ça. Qui nous amène à parler de juste la politique. Ben oui, parce que c'est l'émission qui commence à l'instant.
Est-ce que je peux t'offrir un pogo?
On travaille moins, ils vont travailler. Faut qu'on travaille plus.
Gabriel Nadeau-Dubois m'a traité de Duplessis.
Et c'est exactement ce qu'on va continuer de faire.
Car les Canadiens veulent savoir la vérité!
Et en direct du studio de l'Université Laval au sous-sol, du Chez 94.3, c'est juste de la politique, votre magazine hebdomadaire de nouvelles politiques. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon début de semaine. En tout cas, il fait chaud. On s'attendait à un début d'octobre un peu plus frais,
finalement. C'est l'été des Indiens.
L'été des Indiens, il est long, hein? Septembre, octobre. En tout cas, j'ai bien hâte que le fret arrive, là, puis que ça soit... Moi, je suis du genre pas de saison, là. C'est comme
on
été,
quand ça change
hiver,
tout, là.
Slack. Un mois de novembre, là, avec bien de la neige.
Ça.
Mais en tout cas... Du côté de la colline parlementaire, il se passe des affaires. Je veux dire, en tout cas, de nos deux collines, Ottawa, Québec, d'un côté, les deux parlent un peu de la vaccination. Alors, on va commencer avec ça parce que c'est la nouvelle d'aujourd'hui. Du côté d'Ottawa, Justin Trudeau vient tout juste d'annoncer dans la dernière heure que c'est officiel, hein, pour dans les prochaines semaines, les fonctionnaires fédéraux devront se faire vacciner obligatoirement.
Et ça représente 250 000 employés de la fonction publique fédérale. Donc, c'est pas rien, cette annonce-là. Et justement, on a des annonces subséquentes qui ressemblent beaucoup à ça du côté provincial. On va en parler juste un peu plus tard. Donc, Justin Trudeau a précisé que c'est une politique qui vise l'ensemble des travailleurs, des ministères et organismes fédéraux, y compris ceux qui sont en télétravail aussi, ainsi que les policiers de la gendarmerie royale du Canada.
Oui, c'est un principe. Par principe, on vaccine les gens du fédéral. C'est correct parce qu'il s'était déjà annoncé avant la pandémie. Donc, c'est un peu comme s'il avait utilisé l'élection comme un peu un référendum par rapport à la question.
Exactement. Puis là, on va de l'avant dans cette position-là. Mm-hmm. Puis là, c'est comme si, il y a de plus en... Les minorités qui ne sont pas vaccinées sont de moins en moins nombreuses. Et là, on se retrouve maintenant dos au mur, là, collé sur le marché du travail. On est rendu là maintenant.
Oui.
Puis là, les arguments que le gouvernement sort, ce sont des questions d'intégrité, évidemment, de santé publique. Là, je trouve ça quand même surprenant, que ce règlement-là concerne également les employés, les fonctionnaires fédéraux en télétravail.
Ben oui.
Parce que, le but, c'est de les ramener au travail à un moment donné.
Ouais, c'est peut-être que c'est ça aussi qu'on veut amener. Là. 15 novembre, on rappelle les dates, le 15 novembre prochain, tous les fonctionnaires fédéraux, là, même ceux qui ne travaillent pas dans les bureaux, comme tu l'as dit Antoine, devront présenter une preuve vaccinale, ou présenter ou au moins affirmer qu'ils sont vaccinés, parce que certaines provinces n'ont pas encore déployé de preuve vaccinale. Donc, comme c'est une mesure fédérale, il faut qu'elle soit le plus inclusive possible pour les provinces. Donc, il faut seulement signer une déclaration comme quoi on est vacciné. Si on n'est pas capable de donner son statut vaccinal, c'est de devoir, comme on veut dire.
Oui, oui. Le statut vaccinal, pour ajouter une précision, c'est pas faux ce que tu as dit tout à l'heure, mais pour déclarer le statut vaccinal, c'est le 29 octobre. Et c'est à partir du 15 novembre là, que les récalcitrants vont être poussés
mis à l'extérieur. C'est ça, un peu plus froid. 30 octobre pour les voyageurs. Donc, les voyageurs qui veulent sortir du Canada, tu sais, si vous voulez aller à Tofino comme notre premier ministre, il n'y a pas de problème, là. Mais si vous voulez... si vous voulez sortir du pays, du moins, ça prend une preuve vaccinale d'ici le 30 octobre. Donc, c'est dans pas longtemps, là, c'est environ une quinzaine de jours. Il va falloir vous dépêcher là, pour ceux qui veulent voyager absolument puis qui ne sont pas vaccinés.
Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, qui recommande à ce qu'on repousse cette obligation-là pour la vaccination au niveau provincial un peu plus tard. C'est ce qu'ils demandent au gouvernement.
Ben oui. Des membres de syndicats aussi demandent ça parce qu'ils ont vraiment peur à des bris de service dans les prochaines semaines. En fait, c'est le 15 octobre que normalement, si vous n'êtes pas vacciné au Québec et que vous travaillez dans un service de santé, ben vous devez vous retirer. C'est à partir du 15 octobre. Donc, est-ce que ces renvois en masse, ces renvois sans solde-là vont se faire et vont être nécessairement le plus bienvenu, on pourrait dire, dans la situation actuelle qu'on décrit depuis des semaines de crise au sein de l'organisme public en santé? Là, est-ce que ça ne va pas amplifier le tout? Là, ben, c'est ce que le Parti québécois là, craint énormément, les syndicats aussi.
Mais jusqu'à maintenant, dans le reste du monde, c'est pas une genre de politique compliquée la situation en Europe.
Mais non.
Donc, la question, c'est de voir si ça va être la même chose ici au Québec, mais on est au Québec, on n'est pas en Europe.
C'est ça, ben justement. Ici, on vit des crises qu'on n'a pas dans d'autres pays. Puis on regarde en Angleterre, eux, ça ne change rien qu'il y ait plusieurs personnes à l'urgence, puis ils sont capables d'endosser. T'sais, nous, en ce moment, on a encore beaucoup de règles, beaucoup de contraintes à respecter, justement parce que notre système de santé est affaibli.
Mais je pense que ce n'est pas tous les États qui sont dans la même vague, dans le même stade, la même vague, au même moment.
C'est
que ça devient difficile
sûr.
De comparer ces différents moments-là. T'sais, tu me disais, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, regarde, la Grande-Bretagne, ça va bien. Ah, ben là, ça a remonté là, dans les dernières semaines. Puis là,
Japon,
en ce moment, d'ailleurs, c'est important de préciser, là, en ce moment, au Québec, on stagne. On stagne, donc là, on a vu dans les dernières semaines là, des annonces
dans
le genre...
Il n'y a pas plus de nouveaux cas, là, c'est...
Ben là, aujourd'hui, on est à combien? Ben oui, autour de 500.
Il y a des nouveaux cas, mais c'est dans le sens que le nombre de cas reste à peu près toujours autour de 500. Ça, il n'y a pas d'augmentation flagrante, c'est toujours autour de ça. C'est des cas, puis il n'y a pas beaucoup, nécessairement, de décès liés à ces cas-là non plus. Donc, les gens vont peut-être à l'urgence pour plusieurs.
Je pense qu'on voit les effets bénéfiques de la vaccination maintenant. Oui. Pendant l'été, on savait, même l'été, pendant l'été 2020, il y avait eu cette stabilité-là. Puis là, on l'a eu pendant l'été dernier, fait qu'on se demandait si ça allait se poursuivre. Mais là, on voit que la vaccination a bloqué là, une remontée fulgurante des cas de contamination, ou en tout cas des cas graves de contamination. Puis encore une fois, là, on voyait pas dans les sondages, mais dans les analyses publiques, rendues publiques, que les gens qui se retrouvent à l'hôpital pour la COVID, je vais me reprendre. Il y a à peu près 9 personnes sur 10 qui se retrouvent à l'hôpital à cause de la COVID qui n'ont pas eu de vaccin. Donc,
c'est
un peu le cheval de bataille des gouvernements, ce chiffre-là.
Revenons à la joute parlementaire liée à ça. Oui, Joël Arsenault a répété les mêmes propos que son chef, mais en chambre. Et François Legault l'a repris et a dit je trouve que c'est pas très progressiste. Je pourrais dire dans mes mots, là, je trouve que c'est pas très digne d'un parti dit progressiste de vouloir retarder la vaccination obligatoire du personnel de la santé. C'est à ça que François Legault a répondu. Est-ce que tu trouves que c'est bienvenu de faire un débat sur ce sujet-là comme ça à l'Assemblée
nationale? Les autres partis au Salon Bleu commencent à remarquer que le PQ, ça leur prend souvent un peu plus de temps que les autres. Assumer leurs opinions, notamment il y avait eu la question de la vaccination obligatoire, évidemment, mais il y avait eu aussi cette question? En tout cas, mais pour plusieurs enjeux concernant la santé publique, le PQ prend du temps, va en commission, fait des consultations au sein de son parti, etc., sont en discussion, puis c'est souvent un mois plus tard que ça arrive. Donc, c'est peut-être un peu une façon un peu de piquer au vif le PQ en leur disant que, votre stratégie de consultation, regardez les Québécois, ils s'en battent les couilles en ce moment. Là. Donc, mais je pense pas que c'est une remarque flagrante qui se dit pas. Là.
Non, ça se peut fort bien, là. l'affaire, c'est que on sait que le Parti québécois avait demandé aussi que ben, ce genre de décret-là soit voté en forme de loi et de façon très consensuelle. Il avait demandé là, qu'il y ait un peu d'ouverture de la part du gouvernement. Il n'y en a pas, visiblement. Donc, est-ce que dans cette nouvelle normalité de post-vaccination, est-ce qu'on va finir un jour par avoir des vrais débats sur la santé publique à l'Assemblée nationale?
Et cesser de gouverner par décret. Ben, mm-hmm. En fait, il y a quelques semaines, les cas continuent à monter. Donc, je pense que c'était plus facile de dire, ouais, ben, on devrait peut-être continuer de faire comme on a toujours fait. On ne sait pas ce qui s'en vient. Mais là, maintenant qu'il y a une stagnation des cas de COVID-19, je pense que c'est facile, plus facile de se positionner mm-hmm. en faveur de davantage de débats au Salon Bleu puis de cesser cette mm-hmm. gouvernance par décret.
Bon, avant qu'on perde trop de monde, hein? qu'on perde trop de monde parce que pour vrai, on commence un petit ras-le-bol là-dessus. Je parlais que notre premier ministre est allé à Tofino tantôt, si vous avez bien entendu. Là. Il est allé à Tofino. Tofino, c'est une belle plage en Colombie-Britannique. Là, super beau. Une plage reconnue pour le surf. Et il faisait beau hein, dans ce coin-là. Le 30 septembre dernier, qui était censé être un jour férié fédéral, tout nouveau jour férié fédéral pour le jour de la réconciliation, qu'on appelle pour les peuples autochtones. Super belle journée que le premier ministre François Legault a dit « Non, on la fait pas parce qu'on doit travailler. » C'est une affaire comme ça.
Ça me rappelle Lucien Bouchard. « Travailler!
Oui, »« Travailler! » qui est d'ailleurs dans notre introduction d'émission.
Oui!
Ce fameux Lucien qui est toujours vivant, d'ailleurs. Lucien Bouchard est
oui,
très en forme.
On n'y pense pas souvent. Oui. C'est pour ça que...
Oui,
mais oui,
mais
oui, il est vivant.
Et Justin Trudeau va à Tofino le 30 septembre. Supposé être un jour férié, là. Un jour férié, qu'est-ce qu'on fait? Rien.
Ouais,
c'est ça le principe d'un jour férié.
Mais on n'est pas tous premier ministre.
À son agenda, Justin Trudeau, à son agenda, il était censé rester à Ottawa. C'était ça de prévu, mais il a dit non, finalement, ça me tente d'aller à la plage en Colombie-Britannique, à l'autre bout du pays, là,
ça
le 30 septembre.
Ça n'a pas été une décision extrêmement efficace en termes de communication
exactement.
Publique, surtout que Justin Trudeau a continué, pendant la campagne électorale, de rappeler qu'il était, lui, le parti mm-hmm. proche des peuples autochtones. Ça marche pas.
Bon, mais comme je peux mettre une petite encartade par rapport à la communication publique, faut éviter le plus possible les contradictions lorsqu'on fait, lorsqu'on donne, c'est la base un peu des communications publiques. Là. Éviter les contradictions. Et là, ce n'est que ça. Mais surtout que lorsque l'organisme est un peu plus gros, c'est plus facile d'en faire. Puis c'est ça le défi. Donc on sent que le Parti libéral, puis le bureau du premier ministre est tellement gros, peut-être que c'est ça. Que finalement, ben, ça s'est passé. Il y a personne qui est allé dire Wow, Justin, t'as pas pensé à ça. Si tu vas à Tofino, tout le monde sera pas content que tu t'ailles en vacances un jour férié. Tu sais.
Je pense que peut-être que du côté des communications de son bureau, je pense que cette journée de la réconciliation a été sous-estimée. Mm-hmm. Peut-être qu'il pensait pas que ça allait créer autant d'adeptes. Moi, quand on est arrivé à l'université cette première journée-là, je m'attendais pas à ce qu'il y ait effectivement autant de gens qui avaient des chandails orange. Puis on le sait, toi puis moi, Félix, c'est difficile de trouver un chandail orange.
Oui,
ouais, j'aurais préféré.
Chez Winners, il y en a là, en ce moment.
Aujourd'hui, ça aurait été plus facile si la couleur, ça avait été le bleu. Non,
dans les racks en liquidation, c'est ça.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Ça a été difficile de s'habiller en orange cette journée-là. Mais oui, j'étais surpris quand même, moi aussi, puis même dans les médias, que ça. Tu sais, je m'attendais à ce que ça fasse des vagues, mais autant, je m'en rendais pas compte. Puis je pense que même du côté du bureau du premier ministre, ça a été inattendu, tout ça. Mais je pense que c'est la leçon a été apprise. Mm-hmm. On regardera ça l'année prochaine.
Il dit, comme à son habitude, Justin Trudeau, c'était une erreur. Donc ça, c'est la phrase qu'on entend souvent.
Mais on l'a pas vu pleurer, par contre.
Non, il a pas pleuré cette fois-là.
Il commence à avoir l'expérience politique, puis à se faire taper dans le dos à Noël par ses mononcles puis ses matantes. Puis dire, voyons, Justin, tu peux pas faire ça tout le temps.
Tout le temps pleurer.
Tu peux pas tout le temps pleurer. T'avais juste à rester prof d'art dramatique. Là,
ouais, puis un autre petite controverse à l'intérieur. Ben là, leader de la communauté de Kamloops, il avait dit « Hey, Justin Trudeau, tu viendras voir le premier site d'un pensionnat autochtone où est-ce qu'on a trouvé des personnes décédées. Là. Tu viendras visiter. » Il l'invitait, le leader de la communauté. Et pourtant, lors de son voyage en Colombie-Britannique, de ce jour-là, il aurait pu en profiter pour aller à Kamloops. Ouais, il ne l'a pas fait. encore d'autres choses qu'on ajoute à ça. Donc, il aurait pu rendre l'utile à l'agréable, mais il en a même pas pensé. Là. Donc, de ce côté-là, il y a un petit manque.
Oui, bien, c'est ce que j'avais pu lire, justement, c'est que, bon, il y a plusieurs invitations avaient été envoyées dans les derniers mois. Je sais pas, voire dans les dernières années. Depuis le scandale où est-ce qu'on a découvert ces nombreux corps proches des pensionnats autochtones. Je pense à date de là, mais il a été invité à plusieurs reprises et il n'y a pas eu de réponse de la part de son parti, de la part de ses attachés politiques. Donc, c'était resté lettre morte. Effectivement, ça aurait pu être une opportunité pour lui. C'est pas parce qu'on n'est plus en campagne électorale que c'est plus important d'essayer de faire des gains auprès de la population.
Mais
tu sais, Justin Trudeau, on l'a vu souvent pendant la campagne, ça lui arrive des fois, ça y tente pas. Justin Trudeau, il est comme... J'ai-tu envie d'être premier ministre? Puis à un moment donné, il se rend compte qu'il pourrait ne plus l'être. Oh my God!
Petite remarque personnelle, ça me fait penser un peu à Philippe
T'aimes
Couillard.
Ça, les petites choses.
Depuis tantôt, tu dis.
Vas-y, un petit commentaire. Allez, vas-y,
Philippe Couillard, lorsqu'il était premier ministre, parfois, vers la fin de son mandat, les deux dernières années, tu avais l'impression que ça ne tentait plus. C'était plus. Il faisait une conférence de presse, puis il n'y avait plus de feu sacré.
Ça tentait plus au parti non plus, est-ce que j'avais l'impression aussi.
C'est vraiment... c'est peut-être ça aussi.
Je pense que les libéraux, les fédéraux sont confrontés au même dilemme que le PLQ
Peut-être
auparavant.
Que justement, le personnage de Justin Trudeau commence à s'essouffler.
À s'effriter un peu comme Thanos a claqué des doigts. Puis là, I don't feel so good.
Il a essayé le personnage avec la barbe, ça n'a pas trop marché. Il a pas
J'ai aimé ça, moi, la barbe.
Mais moi aussi. Ça faisait un peu Tom Mulcair. Ça...
Exactement.
Ça nous rappelait un petit peu la gauche, là, tu sais, en tout cas.
Oui, absolument. Qu'est-ce qu'on avait d'autre au programme?
On fait une petite courte pause musicale. Au retour, on continue de parler affaires autochtones. On a encore plusieurs dossiers, mais du côté de l'Assemblée nationale.
Pour l'instant, on vous amène pas dans les réserves, mais dans l'espace.
Ben oui, Space Song avec The Beach House, qu'on écoute à l'instant, une toune de 5 minutes. On en profite pour vous travailler une émission qui s'en vient tout de suite après. Et si vous êtes de retour chez 94.3 dans votre émission Juste de la politique avec moi, Félix Bouffard, accompagné d'Antoine Pellan-Raté, les deux seuls qui tiennent le fort pour cette émission parce que, ben, éventuellement, d'habitude, on est trois, cette fois-là, on est deux. Ça va être à corriger éventuellement. On est bien chill aujourd'hui par rapport à nos sujets, surtout que c'est des très bons sujets, je trouve. Vraiment, on déboule.
On est dans les affaires autochtones cette semaine, beaucoup aussi.
Oui. Ben, c'est ça. Comme je disais, affaires autochtones. Oui, c'est au fédéral qu'on en parle habituellement, ça, parce que les affaires autochtones, c'est essentiellement fédéral, mais l'Assemblée nationale, ça fait son cours aussi. Et puis, premièrement, François Legault, s'est excusé lundi d'avoir manqué de compassion par rapport à l'affaire Joyce Echaquan.
On se rappelle, dans les dernières semaines, une motion avait été déposée afin de reconnaître le principe de Joyce, mais ce principe-là sous-entend qu'il y a du racisme systémique au Québec, et ça, le gouvernement Legault ne veut pas bouger là-dessus. Mm-hmm. Et quand Legault a refusé d'adhérer à cette motion-là, bien là, ça a été facile pour l'opposition de piquer au vif le gouvernement sur cette question-là. Et là, on s'en rappelle, c'est devenu une question extrêmement partisane. Alors, lui, ce qu'il a l'impression, il s'excuse, alors que c'était une semaine, une journée, la réconciliation qui aurait dû être une journée avec laquelle on souligne les terribles histoires liées aux peuples autochtones, ça aurait dû être une journée fondée sur la solidarité avec les peuples autochtones. Ben non, à Québec, finalement, ça a parti en pagaille. Et là, les partis se sont tirés des flèches dans leur intérêt partisan. Donc là, je pense que Legault a reconnu que lui-même, et les autres partis, en tout cas, lui, il s'excuse. Il pense qu'il fait partie du problème, comme quoi il n'y a pas eu de reconnaissance suffisante cette journée-là parce que les partis ont commencé à débattre sur des sujets futiles, à son avis. Voilà.
Je vais citer une partie de ce qu'il a dit dans son compte Facebook et Instagram, parce que je rappelle que je suis intensément à la page de François Legault parce que je trouve que ses relationnistes sont insane, on va dire. Je veux dire, ça, en tout cas,
d'un point de vue que de communication publique,
je suis tous les chefs, à peu près tous les chefs de parti, parce que, pour vrai, je trouve que les personnes qui sont derrière ça sont juste des maestros. Mais je trouvais que, Instagram, Facebook, ils publient ça. Je suis bien conscient qu'à l'Assemblée nationale, la semaine dernière, on n'a pas envoyé le message de compassion et de solidarité que la situation exige de nous. Je m'inclus là-dedans et je prends la responsabilité.
Il ajoute aussi, comme premier ministre, j'ai le devoir de donner l'exemple. J'essaie sincèrement de le faire à chaque fois que je m'adresse aux Québécois. Des belles petites phrases préparées. Wow.
Mais pour de vrai, c'est beau. Ça donne.
C'est ça. En termes de si on analyse de façon objective la qualité de la préparation que ça comprend, on peut reconnaître qu'il y a du bon travail derrière ça.
Récupération de situation. C'est de la récupération de situation, mais qui a été très bien tournée. Mais ça reste qu'il y a toujours une opinion autour du gouvernement qui est assez fermée. Alors, autour de ça, on se dit le gouvernement, François Legault, semble fermé sur la question. D'ailleurs, qu'il a lui-même refusé, on en parlait un peu plus tôt, le fameux 30 septembre comme journée fériée au Québec. C'est sûr que seulement deux provinces l'ont accepté. Je pense que c'est l'Île-du-Prince-Édouard puis une autre.
On a des congés fériés à chaque année, un peu pour des choses qui n'en valent pas toujours la peine. C'est des congés fériés pour bien moins que ça. Moi, je pense que ce soit la moindre des choses de substituer un autre congé férié pour que le 30 septembre soit considéré comme un congé férié pour le jour de la réconciliation. François Legault, son argument, c'est de dire il faut travailler, on a déjà trop de congés fériés. Je trouve que c'est un argument un peu mou parce qu'en réalité, ça prend pas grand-chose pour changer qu'est-ce qui est un congé férié, lesquels en sont. Aujourd'hui, on a des congés fériés qui sont basés sur des cultures agricoles, le catholicisme. Mais peut-être qu'on a besoin de congés fériés qui sont sur des questions beaucoup plus larges, qui touchent beaucoup plus les intérêts des Québécois à l'heure actuelle.
Oui, pourquoi que il y a plein de dates qui pourraient être des congés fériés qui auraient beaucoup plus de sens pour les gens. Puis ça aussi, grand angle sur les congés fériés. Justement, Québec solidaire, comme je dis souvent, réclame souvent plus de congés fériés parce qu'ils disent « on est une des sociétés qui en a le moins ». On travaille tout le temps. Avant, on avait plein de... Lorsque la majorité de la population était catholique, on parle de l'époque de Duplessis environ, il y avait des congés fériés assez souvent, assez récurrents. Est-ce que ça, le fait qu'on se soit devenu une société plus moderne, on n'a plus besoin de congés fériés? Ben non. Comme si les gens n'avaient plus besoin de congés à l'extérieur de la fin de semaine. Est-ce que c'est ça, c'est pas un problème?
On est dans une époque de productivité, évidemment, là, mais je pense qu'il y a peut-être aussi une pression... du côté des entreprises, parce que des congés fériés, ça peut coûter pour plusieurs entreprises. Puis je pense que n'importe qui travaille au Salon Bleu a une expertise dans le domaine. On a tous déjà, de proche ou de loin, coopéré avec une entreprise, travaillé avec une entreprise, été parfois patron. François Legault, lui, était président-directeur général d'Air Transat.
Oui.
Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a... c'est une question... C'est comme un environnement... comment je pourrais dire ça? C'est une question de société, là, finalement. Voyons, comment je pourrais dire ça?
C'est une question de société. C'est une question qu'on devrait se poser en tout le monde ensemble. Est-ce qu'on devrait avoir plus de congés fériés? Durant la pandémie, le fameux congé le dimanche là, pour donner du répit, là, est-ce que c'était bienvenu? Est-ce que ça pourrait se prolonger, ça, donner plus souvent des dimanches de congés? Ou peu importe, ça peut être un autre jour, là, le samedi aussi, ça pourrait être ça. T'sais, je veux dire, pourquoi qu'il faut absolument que...
Effectivement, ça peut être des congés fériés qui touchent des jours de la fin de semaine, samedi ou dimanche, parce que ce que ça fait, c'est que oui, il y a des gens qui prennent congé. C'est une journée qui est consacrée, mais ça touche pas tout le Québec au complet. C'est comme un mercredi, là, tu sais.
Puis on va se dire, la productivité, là, n'est pas tant affectée parce qu'à l'époque, à l'époque des deux grandes périodes industrielles, là, on avait une panoplie de congés fériés et ça n'a pas empêché l'économie de prospérer. Les gens achetaient les jours que c'était ouvert. Là. Je veux dire, si tu as besoin de quelque chose, tu l'achètes le jour où c'est ouvert. C'est pas plus compliqué que ça. Mais tu sais, c'est sûr que bon, c'est rester à la maison. En tout cas, consigne que Justin Trudeau devrait respecter.
Mais en même temps, tu vois, je pense qu'avec avec les deux ans de pandémie, en tout cas un peu moins de deux ans de pandémie qu'on vient de traverser, je pense que c'est important présentement pour les gens d'être au travail,
d'être
dans l'action. On était à la maison longtemps. Fait que j'ai l'impression que si on a le même débat, la même discussion dans deux ans, trois ans, après la fin de cette crise-là, peut-être que les gens vont être plus ouverts à un nouveau congé férié.
Congé férié, éventuellement. Question à se poser éventuellement. Mais sinon, entre-temps, François Legault, si on reste toujours à l'Assemblée nationale, on a eu un résultat... Une enquête de coroner s'est terminée récemment. L'enquête sur la fameuse...
Guyane Kamel, qu'elle s'appelle.
Oui.
Elle demandait au gouvernement de reconnaître le racisme systémique.
Oui, dans l'affaire de Joyce Echaquan.
Exactement, parce que ça aurait contribué à la mort de Joyce Etchemin.
Echaquan,
pardon. Oui. Et je le prononce terriblement mal.
Mais Etchemin, c'est la rivière ici, de côté, là, à Lévis.
Oui, je l'ai lu un peu trop vite, je suis désolé. Mais c'est ça. Donc, Joyce Echaquan, voilà, on l'a bien prononcé.
Oui.
Et ça, il y a plusieurs autres coronaires qui ont commenté cette chose-là. Des coronaires qui... La voix de plusieurs coronaires s'élève pour critiquer la façon dont Guyane Kamel a écrit, elle, son rapport. Le débat, c'est non pas de reconnaître ou pas est-ce qu'il y a du racisme systémique, est-ce que ça a contribué. Sans doute que ça a contribué à la mort de Joyce Echaquan. Mais la question, c'est plus de dire, est-ce que la coroner avait d'affaires à rentrer là-dedans dans son rapport. Parce que normalement, quand on parle de racisme systémique, on parle d'un enjeu quantitatif, on parle d'un contexte extrêmement large. On dit, il y a beaucoup plus d'Afro-Américains qui sont arrêtés par la police que des Blancs, systémique, très général. Alors que là, elle analyse un cas singulier, individuel. Puis là, elle peut facilement déterminer que oui, le racisme y a contribué. Mais là, mettre deux erreurs, parler de racisme systémique là-dedans, non seulement, c'est pas vraiment son ressort d'en parler, parce qu'elle parle d'un seul cas, d'un cas individuel, mais dans son rapport précisément. Mais en plus, elle met de l'huile sur le feu un peu dans le débat, puis ça crée des contestations.
OK. Ça, on va en parler. On continue cette discussion-là. On fait une courte pause publicitaire.
C'est ça que j'allais... j'ai vu ça dans tes yeux.
Oui, c'est ça. J'étais comme, elle s'en vient la pub, mais c'est ça. On fait la courte pause publicitaire. Au retour, on continue de parler un peu de ce cas-ci. On élabore un peu là-dessus. On vous explique comme il faut qu'est-ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aussi par rapport à ça. Et après ça, on va parler un petit peu de Charrette, notre ministre de l'Environnement, qui se promènerait... en auto à essence. Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu, les gens bad trip et ensuite un petit peu d'actualité internationale.
C'est ça, on en parle au retour.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Il contribue tous les jours à faire avancer la recherche scientifique, que ce soit sur le terrain, en laboratoire ou derrière leurs ordinateurs. Leurs découvertes et leurs idées nous aident à mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et à anticiper le monde de demain. Ils sont étudiants ou chercheurs et viennent nous parler de leur projet dans Visage des sciences, une émission présentée par Océane Perrault, les mercredis de 11h à midi.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chise 94.3 et en balado-diffusion sur www.chise.ca.
Et oui, vous êtes de retour à Juste la politique, votre émission hebdomadaire sur la politique municipale, provinciale et même municipale. On va en parler plus la semaine prochaine, ça je vous donne un petit cue là-dessus, là. Mais provinciale, fédérale surtout. Et puis bien là, justement, on parlait juste avant de ce fameux rapport de commission, d'enquête sur la coroner.
La coréenne de Guyane Kamel. Portant sur le décès de Mme Échaquan.
Ben oui, c'est ça. Ce qui se passait, c'est dans le coin de l'hôpital de Joliette. Hein, ce qui s'était passé, on s'en rappelle. Mme Échaquan, juste avant son décès, avait filmé son décès, en fait. Sauf qu'on entendait ce qui se passait autour d'elle. Puis c'était pas Jojo.
Oui, beaucoup de préjugés reliés à ça.
Donc oui. Les gens, un peu avec ce vidéo-là, ça a un peu extériorisé un peu l'enquête. Les gens se sont fait leur propre idée là-dessus. Puis là, c'est pour ça que l'on est comme un peu conscient.
C'est comme si tout le monde était impliqué dans l'enquête sans vraiment s'en rendre compte.
Oui, puis là, on s'est demandé, puis comme tu disais, il y a eu plusieurs autres coronaires qui ont étudié le sujet, puis ils se sont dit, oui, je comprends le principe, mais ils trouvaient aussi d'autres coronaires, puis même le Parti québécois trouvait que la coronaire elle-même, Mme Guyane Kamel, était un petit peu trop, avait un genre de biais là, assez fort.
Mais on l'a vu justement pendant une plaidoirie, où est-ce qu'elle s'était... l'enquête n'était pas terminée. Elle s'est clairement montrée en défaveur des infirmières. C'est sûr que...
Dans une audience.
C'est sûr que, dans une audience. C'est sûr que c'est facile d'être en défaveur des infirmières dans son enquête. Elle a dû être confrontée à toutes ces preuves-là qui sont assez accablantes. Par contre, le travail d'un coroner, c'est d'être détaché de son sujet, d'être objectif jusqu'à la fin.
Oui, donne son opinion, mais à la fin. C'est ça, on donne son opinion quand même lorsqu'on est coroner, mais...
À la fin.
À la fin, quand on a vu toutes les preuves, qu'on a analysé tous les documents et qu'on est prêt à donner un jugement, à donner son opinion. Là, en plein milieu de l'enquête, en plein milieu d'une audition, ça avait choqué à l'époque. Puis là, le Parti québécois dit « Oubliez pas, s'il y avait un gros biais, là, était pas dès le début, elle donnait son opinion sur le sujet. Donc, est-ce que ça donne moins de crédibilité? On s'en parlait hier, d'ailleurs, avant.
Ce que ça fait, c'est que les gens se positionnent par rapport à l'enquête avant qu'il soit terminé, alors que normalement, un rapport de coroner sert justement à dire voici ce qui est arrivé, voici les conclusions et voici ce que la population peut en tirer. Mais là, quand on n'a pas toutes les preuves, tous les témoins dans cette enquête-là, puis que les gens commencent à se donner leur petite idée, avoir leur petite idée, bien là, ça peut peut-être avoir des influences également sur l'enquête.
Oui, c'est sûr. Puis, Legault, comme je disais, à l'Assemblée nationale, Legault a reconnu que le racisme systémique existait dans les pensionnats autochtones. Parce qu'en fait, oui, c'est ça, la nuance est là. C'est que la première recommandation de la coroner, c'est de reconnaître l'existence du racisme systémique dans les institutions au Québec. François Legault l'a cautionné, mais pour les pensionnats uniquement. Donc ça veut dire, aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais il y en avait avant. Est-ce que ça dans le fond, c'est juste pour conserver... Il veut conserver sa ligne d'être contre ce principe-là.
Il veut conserver sa ligne, puis souvent, les arguments qu'on entend, c'est quoi? Systémique, c'est pas un terme qui se vaut, mais en réalité, puis je dis ça de façon objective, Félix, dans la recherche scientifique, dans la recherche universitaire, les experts utilise le terme systémique depuis très longtemps, puis le racisme systémique a été couvert par d'autres termes souvent dans l'histoire pour qualifier des formes de nettoyage ethnique, des formes de génocide. Donc, c'est un terme qui a sa place en science. Puis, bon, fait, voir un gouvernement qui le réfute, c'est un peu étrange là, d'un point de vue de la recherche.
Mm-hmm. Ben, c'est sûr de ce côté-là, mais ça reste que génocide est un mot beaucoup plus
génocide,
fort.
Oui, génocide, c'est un gros mot. C'est sûr que dans l'histoire, il y en a eu un. Et puis, c'est un fait, il y en a eu un auprès des Autochtones. Il y a eu nettoyage ethnique, donc culturel, et génocide par rapport... C'est-à-dire, on assassinait des Autochtones. Et ça se fait encore aujourd'hui. Le terme
moins,
génocide...
C'est moins institutionnalisé,
Le terme
contre,
génocide peut être extrêmement contesté. Puis bon, le racisme systémique, ça comprend pas nécessairement le génocide, là. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est le résidu de cette époque-là qui persiste encore aujourd'hui avec la loi sur les Indiens, avec le mode de vie dans les réserves. Bon, on vous dit, voici votre territoire, mais dans le fond, si vous voulez bâtir des installations publiques, vous voulez construire une maison, vous devez demander au gouvernement fédéral, ça va vous prendre des semaines, des années à pouvoir construire une maison. Tu sais, fait que.
Tout ça contribue à faire penser au reste du Canada qu'on est très raciste.
Et sans vouloir prendre. Moi, je ne prends pas parti du tout pour qui que ce soit, ni François Legault, mais si le racisme systémique, pour ceux qui le reconnaissent, est principalement pratiqué par le gouvernement fédéral qui, lui, a la plupart des compétences.
Vrai, parce que là, on dit, le Québec, vous devez faire quelque chose. On fait de notre mieux, mais au final, c'est le fédéral qui décide pour les Autochtones. C'est, avec la loi sur les Indiens, il s'est donné tous les pouvoirs. Nous, on a déjà des pouvoirs de coercition.
Des responsabilités parce
qu'on vit avec.
Parce qu'on est dans une société au Canada puis au Québec qui vit... on vit encore avec des inégalités à ce niveau-là. Mais là, quand ça touche les services publics québécois, veut pas, le gouvernement du Québec est obligé de pelleter, est obligé de ramasser cette problématique-là, puis souvent de l'assumer. Reconnaître une forme de racisme, ça veut pas dire que le gouvernement le pratique de plein gré, puis ça veut dire qu'il y a une responsabilité derrière ça. Puis je pense que c'est l'aspect du rapport quand même qui tient debout.
Oui, mais c'est ça que Justin Trudeau, François Legault met de l'avant, c'est que lui, il croit que vraiment, s'il reconnaissait le racisme systémique, ça viendrait à dire que tout son gouvernement au complet est raciste et prend des décisions.
C'est dommage parce que c'est pas le cas. Quelque chose qui est systémique, ça veut pas juste dire que c'est les institutions qui sont corrompues. Ça veut pas dire que toutes les institutions participent. Ça veut dire qu'il y a j'en cherche encore le même mot que tantôt. Il y a pas une atmosphère, mais il y a un environnement toxique qui va venir biaiser les services publics. Okay. C'est un peu ça l'idée. Là.
Mais, est-ce que ça, c'est systémique? Je ne sais pas si tu peux répondre à la question, mais parce que moi, je suis curieux. Là. Est-ce que c'est d'un côté, c'est vraiment les personnes ou c'est le système en tant que tel? C'est vraiment dans le système dans lequel on est qui nous amène vers du racisme ou c'est les individus individuellement? Parce que François Legault semble dire que ça reviendrait aux individus.
C'est ça, mais les individus, c'est du racisme en tant que tel, puis c'est la forme, selon moi, la forme de racisme le plus général. Mais je pense que quand c'est un racisme individuel qui finit par changer les services publics que peuvent avoir les citoyens, tout dépendant de leur race, leur culture, là, ça en devient systémique. Et là, le terme systémique peut s'appliquer. Et on parle du système, puis on parle pas juste des institutions. On parle de la qualité de vie, on parle du nombre d'arrestations, on parle de la justice, on parle des écoles. Encore une fois, comme tu me disais tout à l'heure, François Legault, selon lui, reconnaître cet enjeu-là, ça reviendrait à dire que tout est corrompu. Moi, je pense que c'est loin d'être le cas, puis c'est un peu un argument de dernier recours qui nous sort là.
Est-ce que tu trouves, par contre, Antoine, que...
Je ne sais pas.
Est-ce que tu trouves que François Legault s'est quand même un peu amélioré en disant qu'il y en avait eu dans le temps des pensionnats?
Parce que c'était
évident. Est-ce qu'on s'approche un peu plus?
Non, parce que c'était évident.
OK, bon.
tu me dis bravo, tu me dis que le ciel est bleu. Bravo champion, mais comme tout le monde le sait.
Oui, tout le monde le sait, mais c'est reconnu. Il l'a reconnu, puis on le demande au moins une reconnaissance depuis longtemps. C'est déjà fait le strict minimum. Ouais. C'est une bonne chose, mais est-ce que c'est exactement ce qu'on voulait?
Et là, on continue du côté provincial encore.
Oui, le ministre de l'Environnement roule à l'essence, titre La Presse. Aujourd'hui, ça nous amène vers un débat un peu plus large. Est-ce que le ministre Charrette, excusez-moi, j'essaie de trouver son nom.
C'est Benoît Charrette.
Benoît.
C'est ça, Benito. On apprend. qu'il conduit une voiture qui fonctionne à l'essence,
oh,
Félix.
Mon Dieu.
Je répète, à l'essence.
À l'essence.
Puis là, la question, c'est est-ce qu'un ministre de l'Environnement doit absolument rouler avec une voiture électrique ou se déplacer en transport
en commun? Oui, c'est peut-être une hybride non rechargeable.
On ne sait pas. Ben, regarde, il faudrait que j'aille voir les
c'est
détails.
Déjà,
non,
mieux.
C'est un véhicule à essence.
Ah oui?
Sauf que, ben moi, à mon avis, là, c'est de l'opinion, mais regarde, c'est qu'un ministre de l'Environnement, c'est pas le ministre qui est défenseur de l'environnement. Le ministre de l'Environnement, c'est la personne qui est imputable par rapport à l'administration publique, mm-hmm, qui concerne l'environnement puis la réglementation qui vient avec. Donc, c'est sûr que, bon, on voudrait tous que le ministre de l'Environnement soit le défenseur au sein même du caucus,
ouais, c'est ça,
de l'environnement, mais c'est pas toujours le cas.
Puis des fois, l'environnement, c'est plus large que juste la lutte au changement climatique,
exact,
ou la pollution. Ça peut seulement être la pollution sonore. Ça peut
c'est
être,
du zonage.
Oui, du zonage.
C'est du terrain. Je veux construire... on parle tout le temps de pipeline, mais je veux construire, mettons, des
C'est un voisinage mécontent par qu'une usine se construit. C'est plusieurs choses, l'environnement.
Est-ce que le terrain est intoxiqué? Pas intoxiqué. Est-ce que le terrain est empoisonné par une substance? Est-ce que le lac Saint-Augustin, lui, il y a un problème avec le lac Saint-Augustin, il y a des algues bleues, il y a
le fameux lac Saint-Augustin.
On veut s'assurer qu'il y a l'électricité un peu partout. Okay, ben c'est Hydro-Québec, évidemment, là, mais je veux dire, comment les pylônes. Quand
oui,
on veut construire des pylônes,
c'est l'environnement,
qui un peu scrape malheureusement
le paysage,
notre territoire, notre paysage, ben il faut savoir c'est quoi les limites à ces installations-là. Donc, je pense que l'environnement, ça dépasse...
Pour vrai, on n'a pas idée, mais c'est un ministère qui est énorme, l'environnement, parce qu'il regroupe justement plein de déclinaisons de ce que pourrait être l'environnement. Pas seulement l'environnement climatique et pollution. Donc,
j'ai des collègues actuellement qui suivent un cours de droit sur l'environnement et ils se rendent compte... Ils me l'ont dit, l'environnement, c'est... Le fonds qui parle des changements climatiques, des ressources naturelles, il est un peu loin.
C'est un peu un mot valise qu'on utilise à toute sauce. L'environnement.
Mais c'est très large. Il y a des enjeux environnementaux depuis la révolution industrielle.
Ben oui. Puis on savait même pas que les GES existaient, puis on parlait d'environnement. Je dis,
c'est...
Mais en tout cas, c'est vrai que est-ce qu'il devrait absolument, un ministre devrait être absolument le porte-étendard dans tout son être de ce qu'il fait, ce qu'il prône.
Je pense que ça dépend de la ligne du parti. Si t'es d'un parti qui veut justement promouvoir des idées environnementalistes, t'as pas le choix. Il y avait l'idée, là, Catherine Dorion, qui dit « Moi, je suis contre le trafic à Québec et je veux plus de transports en commun. Mm-hmm. » Les gros méchants VUS qui sont au gaz. Elle avait un VUS. Là, l'argument, c'est de dire « Ouais, elle a des enfants. » Mais là, il y a une contradiction parce que ça vient contredire la position du parti qui est fondamentalement verte, environnementaliste.
Mm-hmm, oui. Justement, juste de dire aussi dans l'article, il dit « On me promet une auto de fonction hybride dans les prochaines semaines. » Donc, ça pourrait être réglé, le problème de l'auto à essence pour Benoît Jarrette. Dans les prochaines semaines, du moins.
Mais tu vois, si on dévie un peu du sujet, on parle souvent des voitures hybrides, des voitures électriques. Mm-hmm. On donne des incitatifs aux consommateurs.
Oui.
Mais pas assez aux entreprises. Parce que les consommateurs, il y a comme des subventions. Mm-hmm. Il y a des prêts que tu peux avoir pour acheter une voiture hybride, une voiture électrique. Mais l'affaire, c'est que quand t'arrives, t'as beau être bien craqué, quand t'arrives pour en acheter une, t'apprends il faudra que j'attende un an pour l'avoir.
Pour avoir la prime?
Juste pour avoir le char.
Oui, c'est vrai. Des fois, c'est bien.
Moi, je veux un char là. Fait que... C'est pour ça que je pense qu'il y a un bout de chemin qui doit être fait avec les entreprises.
Oui, c'est sûr. Puis déjà, moi, je trouve ça intéressant quand même que Toyota, je me rappelle plus de sa marque, ait décidé de choisir le Québec comme son banc d'essai là, avec la Californie pour ses premiers véhicules à hydrogène. Super intéressant, ça aussi. On devrait... là, maintenant, toutes les entreprises sont pas mal sorties leur auto électrique, là, une après les autres, les sortent.
J'espère qu'ils se dépêchent parce que là, on vise la carboneutralité.
Mm-hmm. Ben c'est ça. On vise la carboneutralité. D'ici 2050, on n'a plus le droit d'acheter d'auto... d'auto-essence. Donc, d'ici 2050, c'est quoi? Peut-être même plus d'essence point. Là. Donc,
Je trouve que l'objectif est un peu loin. Là.
Ben, c'est ça. Donc,
ça a pris un
2035, excusez-moi.
Ouais, c'est ça.
On est encore plus
d'accord. Tu t'as dit 50, j'étais pas sûr.
Ouais, 2050, c'est d'autres choses.
2035, c'est un peu plus de sens.
Mm-hmm.
Mais certains voudraient que ce soit un peu plus audacieux.
Oui. Oui.
Moi, je dirais pas non.
Mais en fait, c'est que d'un côté, ça permet aux entreprises de... de leur donner une chance pour qu'ils en fassent des autos électriques ou des autos à hydrogène. Donc ça, c'est 2035, ça leur donne du temps de développement. Mais c'est sûr qu'avec ça, si on avait des subventions là, aux entreprises, c'est sûr qu'ils ne sont pas québécoises nécessairement, ces entreprises-là d'auto. Il faudrait qu'on ramène la manique, l'auto entièrement conçue au Québec et fabriquée ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui tente de partir une marque d'auto, mais c'est le temps. Les enchères sont parties. Hey, on une petite pause musicale au retour. On parle
international un petit peu, puis le sac de chips.
Le sac de chips.
Pourquoi pas?
Ouais, mais dans le sac de chips, il y a quelque chose d'intéressant. Partie vert aussi, on peut en parler.
Oui, t'as raison. Ben on revient là-dessus.
On revient là-dessus. Je vous laisse avec Jay Scott, mon numéro.
Mes cheveux font des formes de cœur dans le fond de mon bain. C'est peut-être pas une erreur, c'est peut-être pas pour rien. C'est un peu dur de faire une croix sur toi parce que tes bras sont un cas assez creux pour moi. Sauf que je fonds plus quand tu me demandes qu'est-ce que je fais. Fais-moi à croire, tu veux savoir comment je vais. Tu sais que c'est tough dans mon désordre. Oh, ça tombe bon dans ma caboche. Oh, j'ai recommencé à fumer la top. Fuck, faudra bien que je reprenne le taureau par les cornes. Dans mon mind, c'est pas à l'endroit, la ligne est mince, un trait très étroit. Mais j'aurais voulu te dire tout ce que j'aimais pas. J'aurais fallu que tu m'écoutes, surtout quand je te parlais pas. C'est pas facile de savoir ce que je veux quand je suis pas sûr de ce que je vaux. Je rêve plus à nous deux, sauf quand je crève pour de la peau. Je veux me rappeler de ton numéro, de ton numéro, de ton numéro, de ton numéro. As-tu les yeux dans l'eau quand tu m'écris que tu t'ennuies? Ou si c'est rien pour ton ego, pour que je te dise que moi aussi. Mais aujourd'hui je suis done, je me désabonne, je te remercie pour la run. Si tu veux, tu peux m'attendre là, sauf qu'il y a des chances que je revienne pas. Y'a pas de quoi être pisse, non, pas besoin d'être triste. Pas tous les ponts qui se rebâtissent, ni tous les pistes qui aboutissent. Si on vit nos vies de plus loin, peut-être qu'on pourra rester proche. L'amour j'en ai même plus assez, c'est comme l'argent dans mes poches. Dans mon mind, c'est pas à l'endroit, la ligne est mince, un trait très étroit. Mais j'aurais voulu te dire tout ce que j'aimais pas. Il aurait fallu que tu m'écoutes, surtout quand je parlais pas. C'est pas facile de savoir ce que je veux. Je suis pas sûr de ce que je vaux. Au moins je rêve plus à nous deux. Sauf quand je crève pour de la peau. Je veux me rappeler de ton numéro. De ton numéro. De ton numéro. De ton numéro. De ton numéro.
Et vous êtes de retour au Chiz 94 sur votre émission Juste de la politique. On vient tranquillement sur un petit peu. Oui, on est de retour encore d'élections fédérales. Ça fait quand même un petit peu longtemps, le 20 septembre.
On est
mais ça reste
plus, là.
Au Parti vert, sont encore dans le retour d'élections. Puis c'est, ça n'a pas l'air facile, hein? Parce que Anna Meeple annonce que. Ben, en fait, elle est comme encore chef.
Oui, ben, c'est ce que l'ancienne chef du Parti vert du Canada, Elisabeth May, a dit là, dernièrement. Anna Meeple lui aurait imposé de ne pas commenter, évidemment, bon, pas pendant les élections, pendant qu'elle était chef, mais là, ensuite, de pas commenter son retrait également. Donc, elle lui a coupé la parole.
Oui.
Écoute, il y a plusieurs choses, là. C'est un gros article, là.
Oui. Mais en fait, c'est que c'est un peu Elizabeth May qui se livre dans le Toronto Star, dans une genre de lettre ouverte, puis elle dit, l'ancienne chef hein, du Parti vert, qui dit, ben là, ça va mal au parti. Elle dit un peu son biais hein, sur ce qui se passe dans le parti. Et là, il y a des petites choses qui sortent, comme tu dis. Ouais, d'un côté, un ami Paul qui dit, non, on parlera pas des Autochtones, là, dit à la représentante.
Oui, la présidente du parti, ouais. Elle dit, non, on veut pas t'entendre pendant... le 30 septembre, ouais. Là, c'est assez spécial,
un peu particulier.
La journée de la réconciliation. Puis on voit aussi là que, Mme Paul, même si elle a dit qu'elle n'était plus chef du parti, mais bon, on voit que c'est le contraire selon Mme May, elle contrôle encore les communications du parti.
Prend des décisions importantes.
Elle prend des décisions importantes.
Tu ne parleras pas, tu sais, tout ça. Elizabeth May, elle lui a dit de ne pas commenter, elle l'a fait quand même, là. Donc, ouais. C'est quand même impressionnant. Et Elizabeth May, qui, à ce que je comprends, veut et demande qu'elle quitte pour le bien du parti, parce qu'on a quand même eu une dégelée là, légère là, lors de la dernière élection fédérale. On a quand même perdu un député là, à la Chambre des communes. Là, donc,
et là, Mme May dit que ben, les Verts demandent à Mme Paul de partir le plus vite possible, dans les plus brefs délais, comme tu as dit, pour le délai, pour le bien du parti. Mm-hmm. Elle dit aussi là, que bon, ben, les Verts n'ont pas de temps à perdre pour la reconstruction du parti.
Donc, vraiment, c'est un peu le
ce qui se passe.
Oui, c'est rough au Parti vert. Ça tentait pas ça, des Verts. Mais non, c'est pour de vrai. Anami Paul, on avait déjà des réticences au début. Le parti lui-même avait des réticences avant même la campagne électorale. Là, c'est confirmé. On a perdu un député. On a perdu du vote populaire aussi. Le Parti vert qui descend tranquillement dans les sondages. Elizabeth May, qui avait remonté la cote du parti dans les dernières années, ben, je crois comprendre qu'elle commence à être un peu déçue de la tournure. Puis, elle veut pas qu'on détruise tout ce qu'elle fait là, dans ces années-là.
Et toujours, dans les élections.
Oui,
mais là, on parle, hein, la course à la mairie de la ville de Québec, il y a eu un premier gagnant. Ben, il y a eu un premier débat sans gagnant. Ça, c'est les titres qu'on voit partout.
Oui, Le Soleil, le Radio-Canada, eux autres, ils ont fait presque le même titre. C'est un premier débat sans gagnant ou sans vainqueur.
Pas de gagnant, pas de perdant. Puis, la plupart, on voit des nouvelles têtes apparaître. Là, Madame Marie-Josée, là, qui est la chef d'équipe. Chef d'équipe. Ouais, je sais pas.
Équipe Marie-Josée Savard.
Oui, c'est ça. Ouais, okay, c'est ça. J'ai lu, j'étais pas un peu mêlé.
Mais c'est
toujours.
C'est le petit cousin de Équipe Labeaume. Mm-hmm. Donc, c'est exactement la même formule, ouais. La même équipe, sauf qu'on vient changer la personne parce que Régis Labeaume ne revient pas. Marie-Josée Savard, qui avait été ancienne directrice générale aussi.
Rousseau, qui est chef de Démocratie Québec, et toujours l'illustre Jean-François Gosselin, chef de Québec 21.
Qui promet d'ailleurs un métro. C'est le seul parti qui promet un métro. Donc, il veut mettre la hache dans le tramway, on repart à zéro. C'est assez
il y a bien des experts qui sont un peu sceptiques par rapport à un métro à Québec parce qu'on a une composition rocheuse qui soit pas... on a un relief qui est pas favorable à un métro.
Ah, moi, j'avais eu complètement l'inverse.
Ben,
c'est-à-dire que justement, parce que c'était rocheux, c'était mieux. Mais en tout cas...
mais on l'apprend que les experts ne sont jamais d'accord.
Oui, ben, les ingénieurs ici, des fois, ça s'entend pas toujours.
Mais je pense que les gens ont un petit faible pour le tramway parce qu'on a déjà eu ça à Québec. Puis toi et moi, on est allés à Tours en France.
Okay, ça,
on est tombé sur le métro à Tours, le tramway à Tours qui était ultra moderne. Je sais, on peut avoir un métro super
Tours,
moderne aussi,
Tours,
mais
là, c'est tout petit, c'est gros comme Sherbrooke, Tours là. Puis eux, ont un tramway.
Mais c'était comme le chemin de fer là, tu sais qu'on a comme décoration de Noël en dessous du sapin, un petit chemin, il y a un petit train qui avance. C'est littéralement ça. Il y a pas un gros territoire, pas une grosse ville.
Ça va tellement.
Puis tramway.
Puis un tramway là. Excusez, désolé pour péter la bulle de plusieurs, mais ça va tellement pas vite. C'est tellement lent un tramway, ça va pas vite. C'est comme ça. Fait que attendez-vous pas à de la grosse vitesse.
Mais tu sais, Québec, c'est pas une grosse ville non plus.
Non, ben c'est pas une grosse ville. C'est sûr que ce qu'on veut faire parcourir au tramway, c'est quand même un gros...
Mais sais-tu la vitesse à laquelle ce tramway pourrait aller à Québec? Je sais pas.
Non,
je te pose la question.
C'est un projet en soi qui, en tout cas, chez Québec 21 ou dans d'autres parties, on questionne. On va finir notre tour des chefs de parti municipaux. Là.
Il y a Bruno
Marchand qui se présente comme chef de Québec Fort et Fier. On a Jackie Smith, la chef de Transition Québec, un parti un petit peu plus à gauche. Jackie Smith, qui est américaine de naissance et qui est fière québécoise maintenant. Et puis c'est ça, on a fait le tour pas mal de tout le monde. On va en reparler plus ample, avec beaucoup plus
de détails chiffres, la semaine prochaine aussi.
Avec Guillaume Bédard la semaine prochaine. Ça risque d'être très intéressant. On va consacrer une bonne partie de l'émission à ça. Ensuite, on termine avec notre petit bonbon. Là, qu'est-ce qui se passe dans le sac de chips, Antoine, cette semaine?
Ben, selon la zone ASNA du sac de chips, on peut trouver un article là, qui s'intitule « 8 fois où des politiciens se sont insultés au Québec ». Je trouve ça hilarant. Hilarant, c'est peut-être un peu immature de ma part. Là.
Pas nécessairement cette année ou dernièrement. On retrace les 5-10 dernières années.
Il y a un moment là-dessus. Où est-ce que Gaétan Barrette, quand il était ministre de la Santé, en 2015, à l'Assemblée nationale, il a imité un poulet pendant une intervention de la députée Agnès Maltais. Il a fait « cote, cote, cote ».
Cote. Jean-Paul Mouillé.
C'est ça. Attends, j'en trouve un autre là. Oh, ça c'est rough. Jean Charest, alors en fonction comme premier ministre, a laissé tomber ses mots alors qu'il se parlait lui-même à propos de l'ex-députée péquiste Elsie Lefebvre. Donc,
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il trouvait que, bon, la députée s'attaquait un peu à sa famille, l'incluait dans le débat politique. Ah, et là, il l'a traité de maudite chienne. Alors qu'il lui demandait si son épouse, Michèle Dionne, était intervenue dans un dossier lié à la Croix-Rouge. Oulala!
Maudite chienne.
Là, on est avec Thomas Mulcair qui en a sorti des bonnes pareilles. J'ai hâte de te voir en prison, vieille plotte. Thomas Mulcair, en 2002, alors député libéral du Québec, avait lancé des succulentes répliques à un ancien député péquiste devenu lobbyiste, et ça, c'est Yves Duhem. Et ça, ce n'est pas la conversation la plus édifiante que j'ai eue dans ma vie. Alors, avait donc plus tard commenté le futur chef du NPD.
Des fois, là, c'est un peu récréation ce qui se passe dans nos assemblées populaires. Puis, pour de vrai, on le disait, ça ressemble un peu à ça, ce qui se passe trame entre François Legault et... j'allais dire Simon Gimbard.
Gabriel Nadeau-Dubois.
GND! Gabriel Nadeau-Dubois, pour vrai, c'est comme une relation amoureuse.
Hein? Je pense que si on a le même article dans 10 ans, là, on va avoir woke.
mais ça me fait penser à ça. C'est un peu comme une relation père-fils. On chicane et on s'aime pareil. Là, genre, c'est comme...
mais tu le vois, là, c'est sûr que quand des gens se traitent de nom comme ça, je pense que même derrière les rideaux, ils s'aiment pas. On le sait très bien qu'au Salon Bleu, les députés, en dehors de leur caucus, en dehors des conférences de presse du Salon Bleu, ils sont de très bons amis, là. La plupart du temps, en tout cas très souvent, ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu constater. Tant mieux.
Ben oui, tant mieux. Ben, il devrait, habituellement, quand on est rendu à l'Assemblée nationale, c'est qu'on veut travailler pour tous. Pas nécessairement dans les mêmes optiques, mais le but, c'est le travail pour les Québécois.
On comprend que ça fait partie de la game aussi de temps en temps.
Ben oui.
Au Salon Bleu. C'est sûr que, traiter quelqu'un de plot, c'est un
ça
peu...
ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des débats comme ça. En tout cas, un peu...
Quel débat?
Ben, des débats, pas des débats, mais des petites allocutions comme ça.
Des ébats.
Des
altercations verbales.
Je vais le retenir, celle-là. Est-ce qu'on va le retenir pour une prochaine émission parce qu'il est déjà le temps se dire au revoir. Très belle émission qu'on a eue à deux. Je trouve que c'est quand même intéressant.
On s'en sort.
On s'en sort pas si pire. On devrait avoir plus de contenu la semaine prochaine. On se rappelle, la semaine prochaine, mercredi, 14h, toujours même heure, on vous parle plus de la politique municipale avec surtout les élections ici à Québec. On va revenir sur les promesses de chaque parti au lendemain de ce premier débat qui s'est déroulé hier. Donc, on va reparler de ça. Inquiétez-vous pas, mais d'ici là, on se dit faites de beaux rêves, pensez à nos premiers ministres, puis on se retrouve la semaine prochaine.
On vous dit à la prochaine fois.
À la prochaine. Oh mon Dieu. Ça, là, si vous ne la comprenez pas, c'est parce que.
Parce que vous êtes en secondaire 1.
Oui, c'est ça. Vous n'avez pas eu la référence. Mais ça s'en vient. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de connaître ça. Peu importe qu'on soit de quelle opinion, ça reste légendaire. On revient là-dessus. Mais on s'en reparle la semaine prochaine. Sans faute. Tout le monde, bonne semaine.
Ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection?
Vous écoutez Chiz 94.3 FM, Québec.
Vous voulez connaître les chansons les plus populaires pendant le printemps arabe, la révolution russe, la guerre civile espagnole? Radio Révolution vous invite à partager vos chansons politiques préférées. Tous les mercredis, de 22h à 23h, au Chiz 94.3 FM, c'est Radio Révolution. Les chansons d'avant, pour un changement maintenant.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
Tire le ballon! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les